Au cinéma ce soir, je t'emmène.
Oh, ça, je peux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Le festival des invités du cinéma.
Bienvenue sur Radio DC et puis surtout bienvenue dans la série d'émissions qui concerne le festival du premier film. C'est la 36e édition, si je ne me trompe pas, du festival.
C'est bien ça.
Et pour cette 36e édition, on commence avec deux comédiens qu'on reçoit aujourd'hui, qui ne sont pas que comédiens d'ailleurs. Il y a Claire Dumas qui est avec nous pour le film « Tout ce qu'il me reste de la Révolution ». Et manifestement, il reste pas mal de choses quand même.
Et puis, il y a Aurélien Recoing, qui est comédien, mais aussi metteur en scène, et surtout, au Festival du Premier Film, réalisateur d'un court-métrage qui s'appelle « Un bon tireur ».
Alors, Claire, donc, tu es à la fois comédienne.
Oui.
Et en même temps, tu as participé à la direction d'acteurs sur ce film, ou
tout
peut-être sur d'autres aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ce film, c'est l'histoire d'une... C'est Angèle, une jeune femme,
ouais.
Grosso modo une trentaine d'années, si je me
trompe.
Hein, on va vendre à 30.
Oui, c'est ça.
Qui a vécu dans une famille très militante et qui a elle-même l'esprit très militant et qui animait d'une espèce de colère qui est quand même assez vitale pour elle, finalement.
Mm-hmm.
Et cette colère est toujours confrontée à toutes les réalités qui nous traversent. Et effectivement, ça l'a fait évoluer et elle est confrontée donc à pas mal de choses. Le film tourne là autour, mais cette création, elle a été faite à partir d'un projet qui avait déjà été mis en scène au théâtre avec un collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse un peu de ce projet ?
Oui. Alors la genèse, en fait, ce personnage d'Angèle, c'est un personnage qu'a créé Judith Davis, qui est la réalisatrice du film, qu'elle a créé pour raconter une histoire plus intime et personnelle que ce qu'elle avait déjà abordé dans la création de nos spectacles, qu'elle avait abordé avec nous, puisque nous, on fait des spectacles en collectif, donc sans metteur en scène et sans auteur. Nous sommes les auteurs et les metteurs en scène et les acteurs, pour le meilleur et pour le pire. Et en gros, on avait fait un premier spectacle il y a une bonne dizaine d'années. La première fois qu'on s'est réunis tous ensemble, qu'on a souhaité prendre la parole ensemble, on s'est dit, mais alors, voilà, prendre la parole, c'est quand même politique. Qu'est-ce qu'on va interroger? De quoi on va parler? Et en fait, du coup, la question de l'engagement politique est très vite venue sur le tapis. Et dans la composition de notre groupe, il y avait en gros des gens entre 30 et 40 ans et Simon Bacouche, qui avait 18 ans en 68. Et donc très très rapidement, ça nous a amusé de traiter la question de l'engagement politique à la lumière de mai 68, parce que si pour notre génération, c'est un petit peu le totem, le paradigme, le truc indépassable, et donc on voulait s'y confronter. Simon, lui, il n'avait pas du tout envie de parler de ça. Il a dit non, ça ne me dit rien du tout, vraiment pas du tout. Donc on l'a forcé, on l'a interviewé, etc. Mais on a aussi interviewé plein de gens. Nos parents, etc. Et on a construit un spectacle donc, sur la question de l'engagement à la lumière de 68 qui s'appelait « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Donc on a fait ce premier spectacle. Judith, elle, n'avait pas non plus envie de parler de l'engagement, non pas en général, elle voulait parler d'aujourd'hui, mais le détour par 68 l'emmerdait profondément parce que venant d'une famille très militante à gauche, Elle avait un petit peu ras-le-bol qu'à chaque fois qu'elle sortait manifester dans la rue, on lui dise « Ah bah oui, mais nous, à notre époque, c'était quand même mieux. Bah oui, mais nous, c'était mieux, etc. »
Les haricots étaient plus verts. Et...
voilà. Et surtout,
cette référence constante à mai 68.
Elle, c'était, pour elle, c'était un peu irritant. Et donc, on a regardé pas mal de documentaires sur l'époque. On a vu pas mal de gens, très jeunes parfois, militer, dont certains sont présents, comme Aurélien Recoing. On a fait ce truc. Mais ensuite, elle a dépassé ce stade de l'énervement face à... J'ai pas envie de parler de ce sujet. Elle s'est dit, au contraire, j'ai vraiment quelque chose à faire avec ce sujet. Il y a vraiment quelque chose là, personnellement, que je veux traiter. Et donc, elle l'a abordé sous l'angle de... pourquoi la famille c'est forcément une valeur bourgeoise, pourquoi l'amour c'est bourgeois, pourquoi on n'a pas le temps d'aimer, pourquoi on est tout le temps que sur le politique dans les familles très militantes. Et donc elle a souhaité faire ce personnage d'Angèle qui est complètement à la ramasse sur le plan sentimental et surtout qui est vraiment dans un ancrage d'extrême gauche qui fait que en gros dans la vie de tous les jours elle se heurte à la réalité d'autant plus violemment que pour elle, elle est presque anachronique. Elle a un engagement qui est celui de ses parents,
en fait. Oui, puis elle est à la fois très tranchée et en même temps très peu sûre d'elle, finalement.
Oui, enfin, pas sur le plan sentimental, douteuse. Elle n'est pas sûre d'elle et on comprend que sa mère a abandonné son combat politique, c'est ce qu'elle dit au début du film. Mais on ne sait pas trop grand-chose de cette relation. Et forcément, on voit que depuis 15 ans, elle ne vit plus avec sa mère. Elle vit avec son père qui, lui, passe son temps à faire tous les festivals de femmes solidaires et autres avec sa soca, son...
Qui est une spécialité niçoise,
absolument,
délicieuse,
à base de purée de pois chiches. C'est un plat de pauvre, comme il dit.
Mais c'est délicieux.
Ils ont ça, 1 euro pour l'assaut, 1 euro pour lui. Il se fait quand même des bons petits mois. Donc lui, c'est un retraité, voilà, comme ça, qui sait se joindre les deux bouts. Il y a la sœur qui, elle, dirait le personnage, elle a retourné sa veste et qui militait avant et puis qui est complètement rentrée dans le monde de l'entreprise avec son mari Stéphane. Et puis il y a le personnage de la meilleure amie que j'interprète moi, qui est Léonore, qui est sculptrice mais qui a du mal à assumer ça et qui en même temps vend des pieds de bébé moulés empruntez-moi et qui est le seul truc qui marche dans ce qu'elle fait
et qui horrifie son amie
bien sûr, parce qu'elle dit mais travaille sur ce quoi tu devrais travailler
plutôt que de travailler sur un gagne-pain.
Voilà.
Alors, cette Angèle, effectivement, on la sent confrontée aussi... Alors, confrontée à cette référence constante à la Révolution, etc., enfin, à cet esprit militant, et à la réalité, en fait, de notre vie de tous les jours, mais aussi confrontée à la redécouverte de la vie de ses parents, en fait, aussi. Donc, ça l'amène un petit peu à un voyage intérieur.
Après, je peux pas trop.
Oui, on peut pas non plus dévoiler tout le film.
Mais en gros, les choses sont peut-être pas si simples que ma mère a abandonné son combat politique et elle a abandonné toute sa famille. Elle va découvrir que peut-être ça s'est pas passé exactement comme elle le croit. Et donc, éventuellement, peut-être. Elle va retrouver sa mère un moment, mais on
ne
peut pas le dire.
Mais en tout cas, c'est un film très drôle. On rit beaucoup quand même, et on rit même un peu fort. Des fois, on s'en cache pas.
Il y en a qui rient fort, hein, c'est fou.
Et on a aussi des moments d'émotion. Et puis, il y a des réparties qui sont succulentes. Et voilà, c'est vraiment un film où on se fait plaisir et qui en plus a du sens. Alors évidemment, on ne boude pas son plaisir.
Non.
Je rebondis du coup pour...
Ah vas-y, rebondis, on va voir ce que ça donne.
Aurélien Recoing, donc un bon tireur qui est inspiré d'une nouvelle, c'est ça, hein, de Craig Davidson, qui a été édité aux éditions Albin Michel en 2005. Alors du coup...
Qui s'appelle un goût de rouille et d'os.
Ah.
Dont Jacques Audiard avait fait une adaptation sur deux nouvelles
Marion Cotillard, qui a un excellent film, effectivement.
Voilà, et donc dans ce recueil de nouvelles, la nouvelle que j'ai choisie s'appelle Un bon tireur, en anglais de Rifleman.
Alors, moi, je ferai des parallèles là entre le film dont on vient de parler, c'est le théâtre. Enfin, j'ai trouvé que les acteurs avaient des rôles extrêmement travaillés. Une direction très belle. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de cette direction. C'est votre premier film. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure pour vous, j'imagine. Alors, mise en scène, pas tout à fait la même chose que direction d'acteur, j'imagine. En tout cas, pas, c'est pas tout à fait la même manière de travailler. Donc, moi, ce serait ma question un peu. Comment vous êtes venu à ce passage-là? Comment ça a été nourri par ces deux personnages principaux, le fils et le père?
C'est une grosse question de fond pour un acteur. Moi, j'ai toujours été passionné, évidemment, par le cinéma. Et ça vient de l'enfance, ça vient de tous ces films que j'ai pu voir dans mon petit village de Seine-et-Marne, qui était organisé par le curé du village, qui nous présentait à la fois des films comme Quand passent les cigognes, ou L'Enclos d'Armand Gatti, ou des séries Z. Donc j'étais vraiment énormément nourri par le cinéma aussi de la nouvelle vague. Enfin, j'avais 10 ans, de 68, ou pas loin. Et à la fois, mes parents étaient marionnettistes. Et donc, la mise en scène, finalement, le jeu, tout ça, j'étais en immersion. Oui, ouais. On refaisait le film dans le jardin de notre maison. Et puis, je voyais mes parents produire leur spectacle. Hein. Qu'est-ce que ça donne sur les enfants et comment c'est fabriqué derrière. Donc, je crois que l'envie de mise en scène, en général, que ça soit au théâtre ou au cinéma, ça vient vraiment de cette période. Et puis je rajouterais qu'en réalité, la mise en scène au théâtre et mise en scène au cinéma, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Disons, le jeu de l'acteur, c'est pareil, même si c'est pas tout à fait la même expression. Mais je le considère de la même manière.
Et qu'est-ce qui a déclenché alors l'envie de produire, d'être derrière la caméra et de faire ce premier court-métrage?
J'avais fait un premier sur une mise en scène d'une pièce de Raymond Lepoutre, Ernesto Prime. J'avais fait un film qui était la dernière scène du spectacle. J'avais une super équipe avec moi, j'avais Stéphane Fontaine qui était le chef opérateur, l'assistant d'Éric Gauthier, enfin j'avais une vraie équipe de cinéma avec moi et ça m'a donné ce premier goût avec une sorte de collectif, c'est avec les anciens les élèves sortants de l'ENSAT où j'étais prof pendant 5 ans, donc ça a été une première expérience dans les années 90-93. Et puis l'envie de filmer, de réaliser, est venue naturellement à travers les mises en scène. J'avais fait aussi un petit film sur une mise en scène d'Au-dessus du volcan de Malcolm Nori. Les choses sont venues
progressivement
et tardivement comme ça dans mon parcours. Donc quel bonheur évidemment d'y aller vraiment avec l'équipe d'aujourd'hui. Ça fait des années que je travaille sur des scénarios ici ou là et je me rendais compte que j'avais pas tout à fait les outils du scénariste. Donc j'ai été demandé à Guillaume Gross, mon co-scénariste aujourd'hui sur ce court et sur le long à venir, de travailler avec moi. Et j'ai bien fait parce que ça a remis les choses en place et j'ai pu finalement faire la synthèse entre mon travail théâtral, mon travail d'acteur au cinéma et au théâtre et la construction d'un film. L'histoire d'un père qui souhaite que son fils devienne un grand joueur de basket. Dans la nouvelle de Craig Davidson, c'est intéressant parce que ça se passe dans le milieu du street basketball Canada. Et nous, c'est une sorte de long plan séquence. Et nous, on l'a ramené
exporté
au Havre, oui. Voilà, dans le milieu lycéen, interrégional.
Alors dans le premier film aussi qu'on a vu, Tout ce qui me reste de la Révolution, ce que j'entends de ce que vous dites, ça me ramène aussi à ça. Il y a aussi un gros travail de théâtre. En fait, on voit aussi des mises en scène de théâtre. Même dans le film, on sent qu'il y a un jeu d'acteur un peu théâtral, qui vient un peu du théâtre quand même. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a certaines scènes où on sent que les acteurs bougent plus comme des, voilà, une posture plus de théâtre que de simplement de film. Il y a aussi bien sûr toute une scène improvisée au début, mais on ne va pas raconter le film, mais qui est très drôle.
Vous voulez dire dans un engagement un peu physique?
Oui, la façon de se déplacer ou de se tenir aussi les uns par rapport aux autres. Quelquefois, on a vraiment l'impression d'un travail de théâtre.
Ah oui, bah alors ça, je...
Vous l'aviez zappé.
Non, c'est pas ça, c'est que pour moi... En l'occurrence, moi, j'ai pas du tout travaillé sur les cadres, sur la lumière, etc., sur le découpage. Ça, c'est vraiment Judith qui a fait ça en amont avec Émilie Noblet, la chef op. Après, je sais que dans sa mise en scène, tout était très très précis, très découpé. Après, dans le jeu, Je crois que nous, ce qu'on aime bien, enfin, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît très, très, très bien.
Oui, et c'est le collectif, le collectif au bénéfice du doute, hein, c'est ça.
L'avantage du doute.
L'avantage au bénéfice du doute. Bon, c'est l'avantage du doute.
Non, nous, c'est que l'avantage, c'est pas le bénéfice.
Mais, c'est mieux.
Mais bah, je sais pas, je me rends pas compte dans ce que vous dites, les corps, je sais pas trop. Disons que moi, je pensais plutôt de la mise en scène. Il n'y a pas trop de chant contre chant. Il y en a, mais je veux dire, il y a des plans séquences. Je pense qu'elle a essayé de faire des choses. C'est pas extrêmement complexe, mais elle a quand même pensé des mouvements de caméra un peu particuliers. Il y a des petits travelling qui reculent avec hop, des petits trucs qui tournent. Il y a des. Et les corps sont effectivement. Je pense qu'il y a là où la question du corps est présente, c'est aussi peut-être parce que ça parle pas mal aussi du travail et de l'impact que ça a sur nos corps, sur le stress, sur le. Donc Angèle, son corps, elle est très mal à l'aise. Elle est très mal à l'aise avec les choses du corps. Donc effectivement, par exemple, il y a quelque chose qui est assez peut-être théâtral dans un plan où elle s'allonge un moment auprès de sa mère. Et sa mère est très pas lascive,
très
enfin,
fluide,
elle est très fluide est... dans ses gestes. En plus, Mireille Parrier, elle a un corps de danseuse, quoi. Donc elle s'allonge comme ça. Et puis il y a Angèle qui est vraiment genre, ok, je vais m'allonger.
Je vais essayer d'être bien ou de faire semblant.
Et en fait, elle est jamais détendue, même quand elle est que. Enfin, on va pas du tout raconter tout le film, mais et c'est vrai qu'elle a, voilà, elle est pas bien dans son.
C'est vrai qu'on la sent jamais.
Elle est pas à l'aise. Elle se rhabille quand à un moment on la voit se rhabiller dans un lit. Elle se rhabille sous la couette. C'est complètement absurde. Elle saute dans son slip.
Et bah moi, je sais pas si vous avez vu encore Claire le film d'Aurélien Recoin, mais Un bon tireur. Et ben vous allez le voir. Ah oui, c'est une première. Hein, donc voilà, c'est la grande première qui va être vue au Festival du premier film à Annonay. Et donc, je trouve qu'on rejoint un peu cette question du travail qu'usent les corps. Hein, quand même, ce père, on sent qu'il est, dans cette difficulté-là. Ce que j'ai trouvé particulièrement touchant dans votre film, c'est la manière dont l'un est le fardeau de l'autre. C'est-à-dire, on a quand même cette présence de personnages qui portent une souffrance. Alors, elle n'est pas exacerbée, elle n'est pas désespérée, mais elle est présente, elle est forte et elle est très bien portée par les deux acteurs. Et ben, il y a ce contexte du travail. Alors, ce n'est pas évident, j'imagine, d'amener ça. Comment vous vous y êtes pris? Est-ce que déjà le récit au départ, la nouvelle, elle vous a inspiré tout ça?
Oui, oui, elle m'a inspiré parce qu'elle est... voilà, on parle d'un homme qui est dans un déclassement social. Il a perdu son boulot, il a divorcé ou il est en cours de divorce. Il garde quand même la garde de son fils. Voilà, donc il y a un malaise mais il y a aussi une fusion. Il y a aussi beaucoup d'amour. Il ne faut pas raconter trop le film non plus.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, c'est un rapport fusionnel entre deux êtres et voilà, j'aime bien cette idée que dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement de drames, mais aussi de drames qui sont évités, drames définitifs qui peuvent être évités. Et que de là, bon, bah, y a encore un peu d'espoir, il y a peut-être une résilience, comme on dit, il y a un pas en avant vers le futur. Ensuite, c'est pas à moi de dire ce qu'il en est, mais ça questionne, enfin, ceux qui vont le regarder seront questionnés à cet endroit-là. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui?
Alors justement, pour le regarder, c'est quand même un film de moyen métrage, hein, ça dure 24 minutes, je crois.
24 minutes, ouais. Je considère... Oui, c'est un,
oui, enfin, enfin,
un long cours, ouais. Pas tout à fait, ouais. Un moyen.
Un long cours et un cours long.
Voilà,
c'est un cours allongé.
Comment se passe la distribution dans ces cas-là? C'est pas trop compliqué de le faire se distribuer dans les salles ou... Parce qu'il faut forcément que ce soit avant un autre film ou non?
Ah, alors là, malheureusement, vous touchez un point intéressant. De ces
complexes.
Normalement, je sais pas, il y a eu des lois où on était obligé les salles devaient présenter les courts-métrages avant un long métrage, mais je vois ça très rarement, très rarement. Ou entre les cas, les parcours sont beaucoup plus courts. Donc ouais. La carrière d'un film comme ça aujourd'hui, c'est d'abord les festivals et puis ensuite peut-être la possibilité d'une diffusion à la télévision. Il n'y a pas eu encore de préachat, il n'y a pas eu de préachat et donc il n'y a pas eu encore d'achat d'une télé sur ce cours. Ça viendra peut-être, on verra. À ce moment-là, il sera diffusé plus largement en tous les cas à la télévision. Mais de toute façon, moi, ma première approche, c'est le public. Et je suis d'autant plus content de le présenter aujourd'hui.
Aujourd'hui. C'était quand vous l'aviez présenté, donc voilà. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'était plus aujourd'hui.
Que j'ai joué il y a quelques semaines sur la route de Madison, au théâtre, avec Clémentine Sélarier. Donc,
il y a des occasions.
Là, il y a une belle occasion. Je présente mon cours et en plus, je suis dans le berceau de la vie de ma mère qui a habité pendant des années à Saint-Hermitage. Donc voilà, je suis très contente d'être là.
Et on a aussi un lien avec l'Ardèche, avec tout ce qui me reste de la Révolution, puisqu'il y a une partie du film qui est tournée du côté de Privas.
Oui, ça a fait l'objet de plein de commentaires pendant le film.
C'est en Ardèche. Et c'est où, mais à quel endroit? Mais c'est le pont du Pouzin.
Il y a le marché de Privas, il y a Pourchères.
Avec des beaux paysages, bien sûr, parce que l'Ardèche, c'est magnifique, bien sûr. On ne le cache à personne.
Venez tous. Voilà. Non, venez pas tous, hein, parce que ça va faire du monde. Mais non, c'est très beau. On est c'est vrai.
Et puis, vous y avez été bien accueillis, je crois.
Oui, c'est ça, j'allais dire. En plus, vous avez flatté l'Ardéchois.
Ah bah, on n'a pas flatté disons.
Ça s'est fait tout seul.
Je ne sais pas si... De fait, on a été effectivement très bien accueillis, parce que effectivement, c'est un film avec un budget très, très modeste. Et qui n'aurait vraiment pas pu se faire sans une chaîne de solidarité qu'il y a eu, mais incroyable, de tous les gens qui nous ont accueillis. Puisque pendant 15 jours, on a été logés chez l'habitant. Enfin, la mère de Judith nous a fait à manger pendant 15 jours avec plein de gens qu'elle avait enrôlés à cet effet. Et plein d'amis. C'était vraiment un accueil incroyable de tous les gens du coin. C'était incroyable. Je crois qu'il y a, je dis pas qu'il y a tout Privas dans le film, mais il y a beaucoup de gens qui figurent, qui ont aidé, qui nous ont logés, qui nous ont nourris.
Mais du coup, cette image de l'Ardèche un peu plus au sud nous ramène aussi à mai 68, puisque l'installation des néo-ruraux.
Oui, complètement.
Même si ce n'est pas complètement abordé dans le film, ce n'est pas le sujet principal.
Mais... Non, mais ça, on en parle effectivement un petit peu. Et voilà. Mais,
ce n'est pas un choix hasardeux d'avoir.
Très franchement, il se trouve que ça tombe bien avec la thématique, mais il se trouve que très concrètement, nous, quand on a. Il fallait qu'il y ait une ouverture, il fallait qu'on soit dans ce pari, parce qu'il y a tout un travail sur la question de la ville. Et Judith s'est beaucoup inspirée d'un livre de deux livres de Éric Hazan. Et en fait, elle est urbaniste dans l'histoire, donc elle bosse sur le Grand Paris. Et donc on est au début dans un Paris, dans cette périphérie, un Paris qu'on voit pas tant que ça dans les films. On voit plus Paris intramuros, Paris un peu chic, ou alors la banlieue entre guillemets. Mmh. Et là, on est vraiment dans ces zones avec ces immeubles en briques, ces boulevards, ces périphériques comme ça. Donc c'est vraiment ces zones là. Et quand le film est un peu en deux parties, il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a une échappée dans des paysages où tout d'un coup, l'horizon s'ouvre. Et il se trouve que l'Ardèche se prête magnifiquement à ça. Et de fait, on n'a pas eu de subvention de la région. Donc c'est aussi parce qu'on avait la mère de Judith qui était prête à nous accueillir et nous faire la cantine et tout ça. Et puis que plein de décors, voilà, ça tombait. Enfin, voilà, elle avait pensé à des tas de paysages. Et le pont du Pouzin, par exemple, c'est très beau et ça marche très bien, quoi.
Mais vous en avez parlé à la fin de la rencontre, de l'ambiance et de toute la fraternité ou la sororité qu'il y a eu autour de la création de ce film. Et j'ai dit à ma voisine, mais ça se sent. Et elle me dit, oui, c'est sûr, ça se sent. On sent que c'est un film qui a été fait dans beaucoup de joie de vivre et de partager. Voilà, je pense que c'est l'esprit un peu du film, hein. Il parle aussi de ça quand même.
Complètement.
Du collectif, quoi. Et je trouve que ça se ressent, que vous avez eu un tournage avec une ambiance, j'imagine, vraiment
Une ambiance très studieuse et très collective. Disons que, en gros, ce film, faut pas que ça devienne un modèle économique de, oh, bah, on a qu'à aller tous tourner en Ardèche avec la famille de Judith et de France 50.
Et ça reviendra moins cher,
mais
c'est pas le but.
C'est pas du tout le but de dire ça. Je pense qu'il faut, voilà, c'est aussi, ça repose aussi sur la ténacité de Judith à vouloir à tout prix monter son film et à finalement aussi que, bon, bah, du coup, on fasse bloc et que la production se dise, OK, d'accord, on va le faire ton film, on va trouver des solutions. Mais il est vrai que, par ailleurs, on ne peut pas nier qu'il y a eu quand même quelque chose d'extrêmement chaleureux à le fabriquer ensuite et à trouver des solutions sur place. C'est vrai que c'était super.
Mais c'est aussi parce que vous êtes un groupe qui a l'habitude de travailler ensemble depuis pas mal d'années, peut-être.
Bah oui, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille en collectif, ouais, tout à fait.
Donc, ça crée des liens.
Ah oui, on se connaît bien. On est un petit peu une famille quand même.
Le nom du collectif ?
Ah oui, ça s'appelle L'Avantage du Doute.
Et non pas le bénéfice.
Et non pas
Et le, pour revenir vers vous, Aurélien, le choix de faire un moyen métrage ou court long ou long court, hein, comme vous voulez, c'était un choix parce que vous auriez pu faire un film complet, 1h30, 2h. Voilà, il y en a qui le font.
1h30.
Parce que faire du cinéma, c'est un travail au long cours, donc. Oui, non, bien sûr, j'aurais pu, mais en fait non. Il fallait, ça m'intéressait de pouvoir réunir une équipe qui va me suivre, j'espère sur le long. Donc éprouver déjà, c'est tellement énorme de tourner, ne serait-ce qu'une semaine de tournage, c'est vraiment, ça implique beaucoup de choses. C'est presque aussi difficile que de faire un long en réalité. En amont, en tous les cas, dans la préparation du travail du tournage. Donc voilà, j'étais très content d'éprouver au jour le jour ce que c'est que de faire un film. J'en ai fait beaucoup, mais derrière la caméra, pas, voilà, c'était quasiment la première fois.
Et oui, sinon vous ne seriez pas au festival.
Voilà, voilà. L'autre compte pas parce que ça restait au théâtre. Voilà, éprouver les choses. Pas à pas, ce qui était une leçon pour l'avenir. Le temps de tournage, par exemple, combien de minutes est-il par jour, c'est des choses ridicules comme ça
à
entendre.
Mais
c'est vachement important quand j'ai tourné d'une façon assez classique pour ce film, parce que le sujet s'y prêtait, c'était comme ça, c'est constitué comme ça. Donc voilà, tourner 3 minutes et demie ou 4 minutes et demie ou 2 minutes et demie, ça a des incidences sur une journée de travail. Donc c'est très important de pouvoir se coltiner à cette réalité-là, ces difficultés-là.
À ce format.
Voilà,
mais du coup, c'est vrai qu'il faut, avec ce format, il faut raconter l'histoire en une petite demi-heure. C'est quand même assez
différent.
C'est
un exercice qui n'est pas facile. Ouais,
c'est un bel exercice.
Temps, ouais.
Pour moi, le court-métrage, j'en ai fait beaucoup en tant qu'acteur. C'est un haïku. C'est un petit poème japonais. Hop, on raconte tout en très peu de
minutes,
temps.
Ouais,
peut-être en 5, en 10, en 15, en 20, en 24 minutes pour celui-ci. Mais c'est comme ça. Et j'avais envie d'avoir une dramaturgie qui nous tire, quoi, qui fasse qu'on... du premier plan jusqu'au dernier, on va devant. C'est une ligne, en gros, c'est une ligne directrice. Et on tire le fil jusqu'au bout. C'est le principe un peu de la dramaturgie de ce cours, de cette histoire. Et ça s'y prête bien. Voilà.
Et pour le long métrage, vous avez choisi un thème similaire. On est sur quel type de...
Pour le long métrage, c'est l'adaptation d'un... C'est vraiment encore en développement, donc en tous les cas en recherche de financement. C'est l'adaptation d'un roman de Michel Quint. Qui a écrit Effroyable Jardin. Jean Becker en a fait un film. Et le livre que j'adapte s'appelle L'espoir des mères en chemin, un très beau titre, qui est l'histoire d'un marionnettiste amateur qui fait des spectacles de marionnettes pour des enfants malades à l'hôpital. Et qui va, notamment grâce à un enfant qui est dans le coma, se trouver lui-même, partir sur un parcours initiatique, comprendre où il veut aller, qui était sa mère, avec plein de connexions avec les années 60, la guerre d'Algérie. Voilà, donc il.
Oui, donc
il...
c'est un film qui va parler un peu de vous aussi, parce que vous disiez que vos parents étaient oui, c'est un peu comme Angèle dans Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Ouais.
Ce sont des histoires de famille.
C'est une histoire de famille. Ouais. Michel Quin est venu me voir en me disant tiens, tu connaissais mon parcours, connaissais ma famille, tu devrais lire ce bouquin, ça va t'intéresser. Effectivement, je me suis dit voilà, faire un premier film, un premier long métrage, ça ne peut être que celui-là, en tout cas pour l'instant.
Et puis ça vous permet de revenir au festival, puisque ce sera un premier long métrage.
Absolument.
Vous pourrez toujours essayer de le proposer à l'équipe du festival.
On sera même rentré dans une deuxième catégorie, oui, au cas où ceux qui sont passés par ici. Donc oui. Vraiment, là, c'est toutes les chances de revenir.
Quelle stratégie.
En terrain de choix, ouais, c'est magnifique. Moi, j'aurais une petite question, mais à la toute fin. Donc, si tu en avais une autre avant,
oui,
je te laisse
faire. Oui, une petite, en fait, parce que donc, avec tout ce qu'il me reste de la Révolution, le collectif L'Avantage du Doute, vous avez peut-être maintenant d'autres projets.
Alors, on
parce
a...
que ce film sort donc est sorti là début février.
Ouais.
Et la on date conseille de sortie, à tout le monde d'aller
février.
Le voir.
Voilà. Alors continuez à aller le voir.
Il faut aller
pas,
le voir. Il faut qu'il reste en salle et pour qu'il reste en salle, il faut le voir.
Et d'ailleurs, il passe le vendredi 8 mars à Saint-Julien-Molin-Molette à 20h30.
Voilà. Ah, le 8 mars à Saint-Julien-Molin-Molette
à Ciné-Molette.
Ciné-Molette. Voilà.
C'est donc bientôt, vous pourrez aller le voir, on vous le conseille, il faut venir nombreux, à la fois pour Ciné-Molette et à la fois pour le film, pour la vie du film. Et donc, alors, vous avez donc peut-être d'autres projets.
Alors, les projets du collectif, on est en train d'écrire un nouveau spectacle, on s'y remet là lundi. Et donc, on a une semaine de résidence d'écriture. Pour l'instant, bon, c'est très, très... Pour l'instant, on est un petit peu entre féminisme et collapsologie, si vous voulez. C'est un petit peu les deux grandes lignes directrices.
D'accord. Bien se marrer. Alors, chers auditeurs, vous prenez votre dictionnaire et vous cherchez. Le féminisme, ça va à peu près.
On est bon.
Même. Collapsologie, c'est plus si on continue comme ça, dans 7 ans, on va tous mourir sous 50 degrés. Quoi.
Voilà. Alors, on va se lancer dans la communication positive. Et puisqu'il va faire chaud, on va en profiter pour griller des cacahuètes.
Voilà.
D'accord. Ça, oui, c'est un beau sujet. Mais...
Non, mais là, c'est un peu. Il y a plein de branches. Après, il y a l'adaptation d'un film de Lumet. Enfin, nous, au début, tout le monde amène sur la table plein de choses. Et au fur et à mesure, on élabore et on voilà, mais on en est encore au début. Et donc ça, c'est une création qui aura lieu à Nîmes en 2020, au Théâtre de Nîmes. Et puis, par ailleurs, on joue à partir du 19 mars au Théâtre de l'Atelier à Paris. Donc, si vous avez envie de venir à Paris, chers auditeurs, venez sur la colline de Montmartre, au Théâtre de l'Atelier, voir La Légende de Bornéo. Ça s'appelle La Légende de Bornéo parce qu'il y a une légende à Bornéo qui dit que les orang-outans savent parler, mais qu'ils se taisent de peur qu'on les mette au travail.
Et ça parle du travail. Ils n'ont pas tout à fait tort. Je note celle-là pour mes petites phrases du matin.
Tout à fait.
Intelligente.
Comme tu sais si bien le faire, d'ailleurs. moi, j'avais une petite question. J'aime bien faire ça. Comme on est là pour parler de cinéma et du coup, pour en voir plein, beaucoup, parce qu'on adore ça, j'aimerais bien que vous conseilliez à nos auditeurs, auditrices, soit le film qui vous a fait vous dire « je veux faire ça dans la vie », soit un film que vous avez vu et que vous avez envie de conseiller. Alors, Claire ?
Il y en a... J'ai répondu, en plus il n'y a pas très longtemps, j'avais fait toute une liste, une filmographie incroyable. Et là, je suis en train de revoir Running Non Empty de Sidney Lumet, qui est un super film. Mais alors en français, ça s'appelle... comment ça s'appelle ? À bout de course, peut-être. Je pense que c'est ça. Mais moi, je suis vraiment de la... Enfin, si vous voulez, à chaque fois qu'on demande c'est quoi votre film préféré, moi ça va de... Oscar de Édouard Molinaro avec Louis de Funès, La valise de la bonne, ça me fait hurler de rire, jusqu'à Persona de Bergman. Enfin,
c'est très éclectique.
Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas de.
C'est
pas que j'ai pas de personnalité, mais je veux dire, j'ai aimé à des tas d'âges différents, des tas de films différents. J'ai eu ma période Cassavetes, j'ai eu ma période Almodovar, j'ai eu ma période Happy Chapong, Vera Seta Cool. Enfin, je veux dire, j'ai plein de. Voilà, et récemment, je le confesse, je ne suis pas beaucoup allée au cinéma parce que j'ai des enfants très petits. Je ne me laisse pas aller au cinéma.
C'est toujours comme ça.
Et puis, je joue beaucoup au théâtre le soir. Donc,
ça arrive à de nombreux d'entre nous.
Oui, ça arrive à des gens très bien, il paraît. Donc, voilà, je vais rester dans le répertoire
Ça arrive à des gens très bien, la preuve, ça vous arrive.
Ouais. Ah, mais c'est génial, vous avez cité au moins 4 films que je n'ai pas vus, donc ça me donne plein de bonnes idées.
À Aurélien.
Là, tous ces films-là, je crois qu'on a un peu le même parcours et un regard éclectique sur le cinéma, comme j'en parlais tout à l'heure. J'ai été nourri par à la fois les séries Zen et à la fois par les grands films de la Nouvelle Vague et Cécile B2000 et José Lito. Enfin bon, c'est... voilà. Dernièrement, il y a un film qui m'a beaucoup plu, c'est la dernière Palme d'Or, Une affaire de famille, voilà, qui est absolument magnifique. Je suis aussi allé voir The Green Book, l'histoire de ce pianiste. C'est plus un feel good movie, mais plus que ça quand même, une cryptographie de du sud des États-Unis pendant la ségrégation, une histoire d'un pianiste qui engage un chauffeur italien raciste pour faire une tournée d'une série de concerts dans le sud. C'est bien, je trouve que d'un point de vue de l'éducation,
le sujet est
fort et c'est très bien tourné, très bien joué. Quoi d'autre ?
C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Merci beaucoup.
Alors en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'au micro de Radio d'ici et d'avoir pu comme ça échanger avec vous et poursuivre encore un petit peu dans nos têtes les films que nous venons de voir. Et on n'a pas fini d'en voir
et de vous en parler.
Merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.